RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours en direct, les Grandes Gueules, lundi 15 août. Nous sommes là, les GG, avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, de retour de vacances. Regardez cette mine splendide. Bronzée.
Tu parles.
On était au même endroit pourtant, t'étais
ouais,
sur la côte.
Ouais, mais bon. Je
protège ma vie. Mais tu as bien raison. Moi, il faudrait que je fasse un peu plus gaffe. Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Bruno Poncé, qui est cheminot. Stéphane Manigol, qui est avec nous. Restaurateur, tout à l'heure, à midi moins 25. Monsieur Fombonne qui sera avec nous. Jacques-Charles Fombonne, c'est le patron de la SPA. C'est terrible de se dire qu'en France, on a le record d'Europe des abandons d'animaux. Le week-end du 15 août, c'est le week-end où, traditionnellement, il y a le plus d'abandons. Et alors, je lisais un peu les témoignages des gens qui tiennent les refuges de la SPA. Et avant, on partait en intervention pour recueillir les bêtes, où il y avait des gens qui venaient même désespérés nous dire « Je suis dans une situation difficile, je ne peux plus garder mon animal. » Maintenant, on vient tranquillement nous voir en disant « Bon, écoutez, voilà, là, je ne peux plus, j'ai plus le temps, voilà, je vous laisse mon chat, je vous laisse mon chien et merci pour tout, bonsoir Clara, et c'est fini. » Quoi. Donc, okay, que se passe-t-il dans la tête de ces gens-là? On reparlera de ça avec Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, tout à l'heure, à midi moins 25. À 11h, la pénurie de main-d'œuvre. Au 15 août, bon nombre de restaurateurs ne vont pas finir la saison. J'ai une image en tête, celle d'un restaurateur qui lui avait sa brigade, et en face, le trottoir en face, son concurrent, quasiment à peu près le même volume, était obligé de fermer le matin et de ne pas faire de couvert le midi parce qu'il n'avait pas de suffisamment de gens pour l'aider.
Je sens que ça va être passionnant.
On a aussi des commerces aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment de vendeurs ou de vendeuses pour pouvoir aller au bout de la saison. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des salariés ou est-ce que c'est la faute des patrons qui n'ont pas su, là, au printemps, augmenter suffisamment les salaires ou promettre suffisamment pour pouvoir attirer les salariés? On en parlera tout à l'heure à 11h, ce sera notre GG 7 et match sur cette pénurie de main-d'œuvre, en disant Barbara et Bruno disent oui, c'est la faute des patrons face à Stéphane Manigol. Il est seul contre le reste du monde, Stéphane. Ils sont deux fois plus nombreux que toi.
Parce que pour l'instant, c'est toujours les patrons qui gagnent.
On verra si tu gagnes le match.
Mais Barbara, elle est en reconversion, donc on ne sait pas si elle va finir patron ou salarié. Attention.
Pas,
hein.
Allez, on y va en attendant pour notre nouveau sujet de discussion, la radicalité des écologistes.
Les repérages qu'on a fait sur les golfs qu'on a visités, des arroseurs fonctionnaient pour projeter de l'eau dans les trous de sable, en fait. Donc voilà, ils arrosent du sable, c'est tout à fait pertinent et utile. Voilà.
Puisque l'État ne prend pas sa responsabilité, évidemment que les sabotages vont redoubler pour se faire entendre. On ne peut pas déranger quelqu'un, on peut déranger une logique économique et on ne peut plus accepter qu'il y ait un enrichissement qui passe sur le dos de la planète.
Des golfs cimentés, le trou des golfs, des greens cimentés du côté de Toulouse, des jacuzzi troués, les militants écologistes radicaux passent à l'action en ces temps de sécheresse. Et à chaque fois, il y a des messages en parlant des golfs. Ce trou boit 277 000 litres d'eau par jour, en buvez-vous autant, hashtag stop golf. C'est celui des militants écologistes du collectif Extinction Rebellion qui, la semaine dernière, ont bouché les trous des golfs et abîmé les pelouses des golfs aussi. Les jacuzzi dans les Vosges, il en a dégradé 5 spas. 5 jacuzzi, il les a troués ou il les a vidés. Et les propriétaires qui ont découvert un trou au niveau du bassin, avec un mot écrit « L'eau, c'est fait pour boire, vous massacrez les Vosges, la planète va mal, réveillez-vous. » Et il a saboté les jacuzzi. Donc finalement, ces militants radicaux, est-ce que ce sont franchement de vrais emmerdeurs ou sont plutôt des sauveurs? 32-16 pour en parler avec les GG, Monsieur Manigold.
Ah, moi, je...
Tu supportes pas.
Ça m'insupporte, en fait. Dégrader un commerce, un fonds de commerce, une entreprise pour des idéologies, je trouve ça abject. Je considère juste une chose, c'est que ces golfs ont eu des dérogations. Mm-hmm. Et que si un sujet...
En toute légalité.
Et à un moment, moi, ça m'insupporte d'avoir des entreprises dégradées au nom d'une idéologie. On n'a pas la même façon de fonctionner. Moi, je suis un écologiste pur. Dans mon entreprise, je veille à ce que nous recyclons les calories, l'eau, etc. Et tu vois, par exemple, il y a dernièrement Olivier Grégoire qui a lancé une grande consultation sur comment les entreprises peuvent diminuer leur impact énergétique. Bah, tu vois, dans un autre métier, il y a un truc que j'ai toujours trouvé débile, d'utiliser pour sécher une voiture lorsque tu la laves. Parce que j'étais dans l'automobile avant. Lorsque tu sèches une voiture, tu utilises de l'eau. Moi, j'ai toujours trouvé ça absurde. C'est-à-dire que l'auto-séchant qui sert à sécher ta bagnole lorsqu'elle est lavée, que ce soit dans les carouages ou n'importe où, bah, tu sèches ta voiture avec de l'eau. Moi, j'ai trouvé toujours, ça fait 10 ans que je trouve ça choquant, et je peux te montrer le SMS que j'ai envoyé à un déconseiller d'Olivier Grégoire en lui disant, voilà, ça, c'est des sujets sur lesquels il faut aller parce que c'est aberrant. Tout le monde veut sa bagnole propre, sans taches de calcaire, etc. Bah, ça, c'est débile. Voilà des actions, pour moi, qui sont dans le dialogue, constructives, et certainement dans la dégradation.
Ce qui pousse aujourd'hui au changement de comportement, peut-être que si on les avait écoutés depuis longtemps, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Donc, tu vois, j'ai fait le choix cette année, mais c'est un choix citoyen, de ne pas aller jouer. Je suis un golfeur de qui pour. J'y vais une fois par an ou deux fois par an. Tu vois, je suis très mauvais. Mais cette année, j'ai fait le choix pendant mes vacances. J'ai laissé mon sac à la maison. Je ne l'ai pas emmené avec moi et j'ai fait le tour de ne pas y aller. Mais juste par conviction personnelle. Maintenant, je ne vais certainement pas aller dégrader une entreprise, un fonds de commerce, une activité qui exerce en toute légalité.
Bruno, mais ils ont raison ou pas, ces militants?
Bien sûr qu'ils ont raison, parce que malheureusement, moi j'ai traversé la France, là je revenais d'Espagne, j'ai jamais vu la France aussi sèche. J'ai jamais vu la France dans cet état. Et moi, je trouve qu'on donne des dérogations au terrain de sport. Je trouve ça honteux.
Mais il faut s'attaquer à ceux qui donnent les dérogations. Déjà, pour pas commencer, celui, le chef d'entreprise.
Oui, mais on est dans un pays.
C'est l'État qui donne les dérogations.
Déjà, pour commencer. Et en plus, on est dans un pays où, malheureusement, quand tu dis les choses, quand tu fais de la pédagogie, à partir du moment que l'exemple n'est pas donné, certainement par le plus haut niveau de l'État, et voire même par d'autres personnes, eh ben les gens ne réagissent pas et continuent. Enfin, moi qu'on remplisse encore des piscines et des jacuzzis alors qu'il y a pas de flotte dans la plupart des villages et des villes françaises, moi je trouve ça aberrant. Donc à un moment donné, c'est surtout, je pense, pour provoquer une réaction de l'opinion publique, pour alerter les gens, parce que ce que fait Extinction Rebellion depuis le début, c'est ça. Extinction Rebellion, leurs actions, c'est ils font des trucs coup de poing pour montrer les choses, l'aberration des choses, pour montrer ce qui va pas, et puis à un moment donné, pour choquer.
Rien ne justifie la dégradation, rien. Rien, ni le saccage par certains gilets jaunes de l'Arc de Triomphe, ni ça, rien ne justifie de dégrader, rien ne justifie la casse, rien.
Par contre, depuis deux siècles, la dégradation de l'environnement par l'hyper-industrialisation et depuis 30 ans, l'accélération de ce délire productiviste, la destruction de la biodiversité, la destruction des sols. Là, en Chine, va s'ouvrir un immeuble de 26 étages qui va rassembler 600 000 porcs.
Tu peux me dire ça à moi.
Ce que je veux te dire, c'est que bien entendu, c'est pas beau de boucher les trous du green.
Quand tu dis ça, c'est beau cœur.
Oui, c'est tout à fait ironique. C'est vrai dégradé. Que ça, c'est très très grave, la dégradation du bien d'autrui en bouchant les trous d'un golf. Par contre, des politiques industrielles de grandes entreprises soutenues en réalité par des États parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On est dans un système où on est hyper productiviste. Alors ça, par contre, c'est pas de la dégradation.
Tu vois, Barbara, c'est pour ça que le débat écologique n'arrive pas à trouver son chemin. Moi, en 2015, j'ai été profondément meurtri par le Dieselgate. J'ai fait le choix d'engager à ce moment-là une reconversion, de devenir chef d'entreprise et moi d'essayer en tant que chef d'entreprise de limiter possible l'impact écologique.
Non mais c'est intéressant.
En tant que citoyen.
Non mais c'est intéressant.
Et j'ai fait cette reconversion.
Non mais toi tu.
Parce que t'es conscient.
Toi tu es conscient. Tu es un patron exemplaire. Néanmoins, il y a des gens qui ne sont pas encore aussi exemplaires que toi, donc ça tu peux peut-être l'entendre. Et à ce moment-là, ce que fait Extinction Rebellion, même si je suis pas d'accord avec toutes leurs actions, je veux dire, là, excuse-moi, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas bien grave. Par ailleurs, on va quand même pas se mentir sur une chose. Les surfaces arrosées sur dérogation, c'est moins de 5% d'un golf. Hein, c'est le green et les départs. Le fairway, aujourd'hui, même dans un golf aussi célèbre que St Andrews en Écosse, le fairway, il est jauni. Et les gens acceptent de jouer sur du fairway jauni. Donc ça, il y a eu une évolution aussi chez un certain nombre de joueurs de golf, je pense les vrais passionnés. En revanche, je vais y revenir, mais je crois que les golfs de Dubaï et compagnie, ou de Las Vegas, ils continuent à être bien vert, parce qu'eux, ils continuent à tirer sur l'eau.
Comme les pelouses des stades de la Coupe du Monde.
Voilà, comme les pelouses du stade de la Coupe du Monde du Qatar, nos amis. Donc, le diktat.
Et dans ce cas-là, les stades de foot, tout ça, t'en fais quoi?
Le diktat du vert fluo dans les golfs, c'est quand même en train un peu de reculer, parce que même ces gens-là se rendent compte qu'il y a de l'abus. Donc, ça progresse. Je ne pense pas que ce soit inutile. Excuse-moi, toi, tu t'insurges.
Non, je m'insurge pas. Moi, je m'insurge contre la casse.
Ce n'est pas si grave que ça.
Tu mélanges deux sujets.
Ce qui est plus grave, c'est la destruction de la biodiversité et en particulier la destruction d'un grand nombre d'espèces animales.
Elle n'est pas sur le combat écologique. Notre divergence est sur les méthodes et la dégradation. Moi, je ne peux pas, en tant que citoyen, je ne peux pas accepter une dégradation, ce qui, au demeurant, est un délit.
Je vais te dire une chose, Stéphane. Quand ça fait 50 ans, ça fait depuis les années 70 que les écologistes se battent pour faire prendre conscience que l'hyper-industrialisation et la surproduction et le productivisme et l'élevage intensif et l'agriculture intensive, tout ça va nous conduire dans le mur. Quand tu as parlé, excuse-moi, quand tu as parlé, que tu as même fait des congrès, que tu as fait des paris, des COP21, des COP22, des Grenelles, des gens, je ne sais plus qu'en faire, que tout ça n'avance pas parce que les gens continuent à pleurnicher parce qu'ils n'ont pas pu remplir leur piscine et à pleurnicher parce que le golf, il n'est pas vert. Excusez-moi, on peut comprendre que une génération de jeunes aujourd'hui qui considèrent que là, c'est maintenant ou jamais parce que la situation, elle est catastrophique et que même les plus grands experts te disent qu'on ne peut plus continuer avec ce système. À un moment donné,
je dis le contraire, hormis la dégradation. Oui, il faut éveiller les consciences citoyennes. Il faut faire appel au.
Par exemple,
moi, en reconversion, j'ai créé ma boîte et je choisis mes agriculteurs qui sont respectueux, vertueux de l'environnement, les vignerons qui sont respectueux et vertueux de l'environnement.
J'imagine qu'en tant qu'écologiste, tu connais le Shift Project. Hein, la grande plateforme autour
je
de
fais le
de
choix,
Jean-Covici.
Mes vêtements, ils sont fabriqués
oui,
ben
moi aussi,
ou en
ça
France,
fait que, ou, mais moi, ça fait longtemps que je me suis je m'achète
pire,
en
Europe.
Ok, donc, est-ce que tu connais le Shift Project, cette grande plateforme, notamment, pas seulement par Jean-Covici, mais d'autres? Ils ont demandé à chacun des candidats de répondre dans une lettre aux grands enjeux et aux grandes solutions qu'il proposait. Tu sais quel est le seul candidat qui n'a pas répondu en temps et en heure au Shift Project? Parce que tous les autres, ils ont répondu. Et sur la page internet du Shift Project, tu avais un décryptage de chaque candidat. C'est Emmanuel Macron. C'est le seul qui n'a pas envoyé au Shift Project son grand projet écologiste. Pas de pause, c'est celui qui a été encore élu. Donc, excuse-moi, la soi-disant grande prise de conscience que l'écologie, ça allait être le grand sujet. Je te dis simplement qu'il y a aujourd'hui une absence de prise de conscience.
Je rappelle Macron, il a pris Olivier Grégoire pour tout ce sujet. Donc, je pense qu'en faisant quelqu'un comme ça, ça va être parfait. Non, mais le vrai sujet, moi, je comprends ce que tu dis, Stéphane, parce que de ta position. Mais à un moment donné, n'est-il pas trop tard pour ces mesures, pour les pansements sur les jambes de bois, où tu dis aux gens, bon, faites pas ci, faites pas ça. Est-ce qu'il est pas trop tard? Là, on nous annonce à l'horizon de 2040-2050 des températures à 50 degrés. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas trop tard si tu fais des actionnettes?
Il faut aller dans la radicalité.
On n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, si tu veux interpeller les gens, moi, je ne comprends pas. Moi, je suis sûr que dans les gens, la plupart des gens, tu viens de Nice, Alain, je suis sûr que quand tu vas au stade de foot à Nice, t'es content d'avoir l'herbe verte, mais c'est pas plus content que t'aies pas une coupure de flotte qui va arriver dans pas longtemps parce que t'as pas d'eau, parce que t'as des gens à côté de chez toi qui peinent à avoir de l'eau pour boire et tout ça.
Ah, mais donc surtout, je suis d'accord avec toi. Et quand on va arriver sur le sujet du nucléaire, on va en avoir objectivement besoin. Tu refroidis tes bassins comment? Avec de l'eau.
Bah oui.
Et donc on n'a pas d'eau et on va avoir besoin du nucléaire.
C'est sûr.
Et massivement en octobre, novembre, décembre. Tu vois, c'est des sujets sur lesquels nous on est déjà dessus.
Sauf que c'est des vrais sujets où on va couper pendant près de
deux heures tous les jours les énergies de tous les Français.
Tu as raison. Sauf que en fait, c'est militant. Ça va au-delà simplement du fait d'arroser le golf, puisque quand tu vas sur leur site, ils ne veulent plus du tout de terrain de golf. Et quand si tu veux, pour eux, c'est une aberration d'aller taper une balle sur de l'herbe que tu entretiens. Pour eux, c'est des terrains de golf. C'est t'aménages la forêt ou t'enlèves des arbres.
Mais tu
comprends.
Oui,
c'est pour ça que je te dis que discuter avec Extinction Rebellion, c'est compliqué, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est radicalement un autre mode de vie où on ne devrait plus avoir de voiture, on ne devrait plus avoir de terrain de golf, on ne devrait plus arroser les pelouses des stades de foot. On ne doit pas avoir de jacuzzi.
Et même pourquoi
pas avoir de piscine chez soi. Donc la discussion va devenir difficile avec ces gens-là.
Cette radicalité qu'on peut trouver chez certains militants d'Extinction Rébellion, elle est là, elle est le résultat du fait que rien n'avance par ailleurs, qu'on a multiplié les Grenelles et les COP 21 et ça n'avance pas.
C'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, tu voyages en 3 heures.
Tu vas me laisser terminer juste un point. On est sur la question de l'eau. C'est évidemment pas les golfs et l'arrosage des golfs qui expliquent la pénurie d'eau dans le monde. Je vais te dire, ce qui explique les grandes pénuries d'eau potable qu'on va connaître, c'est l'industrialisation de l'élevage. Si demain on lance enfin la désindustrialisation de ce qui a été à la base de nos sociétés humaines, c'est-à-dire l'élevage, et si on revient à un élevage raisonné et non plus à un élevage industriel, tu vas libérer 40% de l'usage de l'eau potable dans le monde. Donc, quand on arrêtera l'industrialisation de la viande, et du coup donc, excuse-moi, oui, on obligera les gens à manger moins de viande.
Mais tu me dis ça à moi. J'ai un label qui s'appelle Écotable. Il n'y a pas plus chiant, entre guillemets, pour l'écologie.
Pour ton label.
Moi, j'ai 2 étoiles Écotable. Désolé, je ne peux pas en avoir une 3e. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai mon propre champ devant mon restaurant. À Paris, c'est compliqué.
En attendant, le lobby de la viande, il est là. Le lobby de la chasse, il est là. Tous ces gens-là qui veulent maintenir l'industrie de l'élevage, il est là. Et c'est ce lobby-là qu'il faut abattre.
Et soutiens le lobby de ceux qui veulent faire bien.
Ce week-end, j'ai mangé au barbecue une Black Angus. Magnifique. Un peu maturée, magnifique.
Mais si tu n'en as mangé qu'une par semaine, tant mieux.
C'est les excès.
Par contre, si tu en manges une fois par jour, excuse-moi, c'est un problème.
Dans un instant, Raphaël avec nous, il est dans les Vosges. Raphaël, il est artisan pisciniste. Il entretient les piscines et les spas. Il est à Gérardmer. Vous savez, Gérardmer, c'est là où il y a eu l'arrêté municipal. On est obligé d'aller prendre de l'eau dans le lac parce qu'il y a les sources qui alimentent le réseau public qui sont taries. Il veut intervenir dans la discussion. Ceux qui bouchent les trous des golfs ou qui crèvent les jacuzzis, est-ce que ces militants radicaux sont des emmerdeurs ou des sauveurs? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui le restaurateur Stéphane Manigault, Bruno Poncet qui est cheminot. Nous sommes avec Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion, qui rentre de vacances, qui va être avec nous cette semaine.
En pleine forme.
Barbara.
Je précise, en reconversion dans la question de la protection animale. Oui. Voilà. Et je fais des formations sur mes deniers, ça prend du temps. Voilà. Non, mais je dis parce qu'à chaque fois, il y en a un, elle se reconvertit. Bah oui.
Oui, elle en finit plus de se reconvertir.
Bah oui.
Mais qu'elle se reconvertit, ça y est.
L'avantage de la fonction publique, c'est que tu as 10 ans pour te reconvertir. Hein.
Oui, mais je ne suis pas payée par l'éducation
nationale. Ah non, tu n'es pas payée, mais au bout de, au bout de 9 ans et 364 jours, si peut-être. Tu décides de revenir dans ton ancien métier, tu peux. C'est quand même une des prouesses françaises et moi, je trouve ça formidable.
Mais moi, j'espère justement aussi, en partie, dans ma reconversion, travailler à l'éducation nationale parce qu'il y a beaucoup à faire sur la question de la protection animale, du droit des animaux, car il n'y a aucune sensibilisation de la jeunesse.
Dans la
et on pourrait aussi faire beaucoup de médiation animale au sein des écoles. Et ça permettrait justement d'éveiller une génération à tout ce qui est à la fois consommation excessive de viande.
On en reparlera tout à l'heure
hein.
Avec Jacques-Charles Fombonne qui sera avec nous, le président de la SPA. En attendant, parlons de ceux qui trouent les jacuzzis, qui bouchent les trous des golfs. C'est Raphaël qui est avec nous des Vosges, de Gérardmer. Bonjour Raphaël.
Bonjour les grandes gueules.
Merci d'avoir patienté Raphaël. Qu'en pensez-vous alors de ces actions?
Bah écoutez, moi j'en pense, je suis un petit peu surpris des réactions aussi violentes. Je veux dire, aller percer des jacuzzis chez les gens pour sensibiliser les médias et tout, je trouve pas ça normal. Je veux dire, il y a des solutions. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver des solutions. Pour le gaspillage de l'eau, pour tout ça.
Lesquels, Raphaël?
Comment?
Lesquels, Raphaël?
Lesquels? Bah, tout simplement, moi j'entretiens tous les spas et piscines sur Gérardmer. Mon but, moi, c'est de presque jamais vider, justement. Pourquoi? Parce que c'est mon métier, donc je sais comment l'eau réagit, j'amène ce qu'il faut, j'anticipe, je passe régulièrement chez les clients pour que l'eau soit toujours bien.
Le maire, c'est ce qu'il y a
de là. La première chose, c'est mon métier. Il y a beaucoup de gens qui ont des spas ou des choses comme ça, c'est pas leur métier, donc l'eau est sale, ils vidangent, voilà. Déjà, première chose. Deuxième chose, récupérer les eaux quand on vidange dans une cuve. Je veux dire, un spa, ça fait un mètre cube, on la récupère dans une cuve, et après, on peut alimenter d'autres choses avec, pourquoi pas, ses toilettes, machine à laver, choses comme ça.
Mais je vous rejoins dans la mesure où il y a des golfs qui sont dans une gestion éco-responsable et notamment qui utilisent les mares.
Ils ont des bassins de pluie.
On crée des mares tout au long du golf on récupère l'eau des mares pour arroser le golf. Ça existe, il y a un certain nombre de golfs qui utilisent cela.
Les écologistes ne veulent pas de ces bassins de rétention ou de ces mares.
Oui.
Ils n'en veulent pas. Ils disent parce que l'eau, au contraire, elle doit filer naturellement. On doit l'irriguer. Non, elle doit redescendre vers les nappes phréatiques.
C'est pas tous les écologistes qui pensent ça. Il y a des écologistes qui comprennent quand même. On va pas éradiquer tous les golfs de France. Bon, on n'est pas obligé non plus de continuer à en construire autant. Je sais pas si en plus ça répond à un besoin. Le golf reste quand même un sport de riche. Excuse-moi, pas encore un sport démocratisé, le golf. Donc on n'est pas non plus obligé de tapisser la France de golf.
C'est pour qu'il y ait des services publics. Il faut qu'il y ait des riches cons qui payent des impôts, Barbara.
C'est joliment dit. Souvent, pour l'instant, la TVA, je te rappelle, tout le monde la paye. Tout le monde la paye, la TVA.
C'est pas avec la TVA que tu vas payer les profs, les enseignants, les pompiers, etc.
T'inquiète pas qu'avec la flat tax, ils en payent moins, les riches.
Raphaël, justement, je voulais savoir aujourd'hui, parce que Gérard May, là, en ce moment, l'eau, il en manque.
Il manque de l'eau à Gérard May. Et donc, c'est pour ça que, depuis 3-4 jours, en fait, par rapport à l'arrêté municipal et préfectoral, je vidange tous mes spas. Et tous les spas que je vidange, l'eau est cristalline. Donc, et je ne les ai pas vidés depuis le mois de mars, peut-être. Non. Donc, j'ai pas participé à ça. Moi, justement, je veux pouvoir garder cette eau, l'utiliser au maximum.
C'est vraiment un manque de connaissances.
Et donc, j'ai vraiment vidé tous les spas qui étaient top. Enfin, je trouve que ça, c'est du gaspillage.
Voilà. Ah oui.
Pourquoi vous les avez vidangés? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas? Pourquoi vous les avez vidangés?
Avec l'arrêté municipal, il fallait vidanger tout ce qui était.
D'accord. Et l'eau, vous en avez fait quoi?
Il te l'a dit, il l'a récupéré pour arroser, pour.
Celle-là, elle est partie dans la terre.
Non, oui. Ça serait une solution, justement, récupérer les eaux. Sauf que là, on vidange, il n'y a rien de prévu, donc on vidange soit au.
Attendez. Excusez-moi. On vidange, mais il n'y a rien de prévu. Voilà. J'aime beaucoup. On va s'arrêter sur cette phrase. On vous demande de vidanger, c'est-à-dire la préfecture vous demande de vidanger des eaux qui sont tout à fait propres à la consommation du spa, on va dire. Par contre, la préfecture ne prévoit pas que faire de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on la déverse, puis on la gâche. Excusez-moi. Donc, qui est responsable? C'est pas vous. C'est la préfecture.
C'est la préfecture qui. Là, c'est les pouvoirs publics.
Ah ben, ils n'ont pas dû aller à la réunion d'Olivia Grégoire, c'est pour ça.
Est-ce que je trouve pas normal, c'est que. Quand vous construisez une piscine, en fait, tout ce qui est vidange et lavage de filtres, l'eau part aux eaux usées. Il y a une réglementation. Pourquoi pas appliquer cette réglementation au jacuzzi? Déjà, premièrement, pour éviter de balancer de l'eau dans la nature, comme ça.
Ils n'ont pas dû y penser dans les réunions.
Il y a des choses il y a des améliorations à apporter. C'est clair que je suis pas d'accord avec ceux qui vidangent les spas tous les deux jours. Je trouve pas ça normal du tout, quoi. Je veux dire, voilà. Mais, tout de suite, on interdit, on saccage, et c'est pas la solution.
Et après, Barbara, je suis désolé, mais si tu acceptes le vandalisme sur ce sujet, faut accepter le vandalisme sur toutes les causes et tous les sujets. Et je veux plus, dans ce cas-là, t'entendre condamner lorsqu'il y a de la dégradation au nom d'une cause. Parce que tu peux pas d'un côté condamner.
Je vais te dire, les laboratoires d'expérimentation animale, je suis tout à fait d'accord pour les saccager.
C'est un paradoxe terrible. Qu'on a, lorsque c'est sa cause, on trouve ça normal. Mais par contre, lorsqu'il y a de la dégradation pour d'autres causes, on dit, non, c'est pas normal. Regardez, ces ragas, ils ont tout cassé. Soit tu condamnes la violence, ce que je fais, et toutes les violences.
Me comparer à un feu de poubelle qui n'a aucun sens politique.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Non, ça n'a aucun sens politique. Avec le fait de incendier une poubelle.
Ceux qui ont saccagé l'Arc de Triomphe, ils avaient un message.
Et ensuite tabasser les pompiers.
Ils avaient un message.
Ce n'est pas boucher un trou de golf qui, excuse-moi, ne fait de mal à personne.
Merci Raphaël d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion avec Nathalie qui nous appelle. Raphaël était dans les Vosges. Nathalie nous appelle de Gironde. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Bonjour Nathalie. Alors, ces militants radicaux, emmerdeurs ou sauveurs?
Alors moi, je vais dire, je suis ni militante, ni radicale, ni emmerdeur, ni sauveur. Je vous explique en deux mots.
Avec plaisir.
J'habite en Gironde, donc je suis un petit peu concernée par tout ça. Je n'ai pas de voiture, je n'ai rien de tout ça. Je vais juste faire mes courses sur un supermarché qui est à 500 mètres de chez moi, qui possède, je ne dirai pas le nom de l'Intermarché, sauf si je peux le faire, qui possède une station d'essence et une station de lavage de voitures.
Ah oui,
j'en parlais deux minutes.
Donc, depuis quelque temps, quand je vais faire mes courses et que je vois cette station de lavage qui marche à 200%, qu'il y a des gens qui font la queue pour laver leur voiture, ça m'a fait sortir de mes gonds, on va dire. Un petit peu comme Barbara Lefebvre pourrait le faire, mais voilà.
Je le fais plus posément.
Vous avez fait quoi alors, Nathalie?
Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé le directeur de ce supermarché, je lui ai demandé comment il pouvait, en ce moment, alors qu'il y a un incendie majeur à 50 km de chez nous, continuer à faire marcher une station de lavage d'essence.
Mais ce que dit Nathalie est très...
Attends,
finissez Nathalie.
La réponse.
Il m'a dit, madame, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas mon problème. Je lui ai dit, écoutez, il y a un arrêté préfectoral qui a été sorti il y a quelques jours, comme quoi nous étions en restriction d'eau. Le monsieur m'a dit, je ne l'ai pas reçu. Je lui ai dit, monsieur, je viens vous voir, donnez-moi rendez-vous, je viens vous voir. Nous nous sommes vus, j'ai vu le directeur de l'Intermarché, pardon, j'ai vu le directeur du supermarché à côté de chez moi. On en a discuté très calmement. Il m'a dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire personnellement, c'est-à-dire sans être militant, sans être un
emmerdeur. C'est très bien. C'est ta réponse, Stéphane, ça.
Allez-y, finissez, Nathalie, donc. Et donc
le lendemain, je suis venue faire mes courses. J'y retourne tous les jours, comme d'habitude. Et la station de lavage des voitures est mise hors service.
Bravo. Voilà une vraie citoyenne. Donc, ça a été dialogue sans casser, fait les choses. Bravo, Nathalie.
Exactement. Mais c'est très important. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
Ben voilà.
Sans aller détruire.
Ben merci et bravo à l'Intermarché de Gironde.
Ouais. Moi, je
vous l'avez dit trois fois, donc je pense que tout le monde a compris.
C'est surtout bravo à Nathalie, parce que sinon, si elle n'avait pas interpellé.
Mais ça, c'est un vrai.
Bien sûr, elle a entamé le dialogue, elle a discuté, elle les a mis devant leurs responsabilités.
Bravo, Nathalie.
Parce qu'en même temps, il y avait les incendies en Gironde, et effectivement, ça pouvait paraître complètement aberrant. Et comme la personne qui, d'elle-même, d'ailleurs, emmène sa voiture.
Alain, ce qui est aberrant. Ce qui est aberrant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je rappelle, pour que chacun comprenne, que pour sécher une voiture, une fois qu'elle est lavée, une fois qu'elle est mouillée, tu utilises de l'auto-séchant. Avec de l'eau, c'est une aberration sans nom.
Comme Stéphane nous dira régulièrement, lui, ce qu'il met en œuvre, etc. Moi, j'ai une façon de laver ma voiture. C'est quand il y a un orage.
Tu sors ta bagnole.
J'ai ma voiture. Moi, je mets une grande cape de pluie. Je prends tous mes chiffons. Et j'y vais, je frotte ma voiture avec l'eau de l'orage.
Elle doit être bien rayée. Hein.
Et ensuite,
elle doit être rayée de partout.
Mais non, c'est avec de l'eau de pluie et avec un tissu. Je m'en fous.
Et ensuite, tu re-rentres ta voiture.
Non, elle sèche une fois que l'orage est fini.
Et puis après, tu viens lui repasser un coup de chiffon pour qu'elle soit propre.
Je m'en fous, elle sèche comme ça. Elle sèche
même
comme
en plein hiver.
En plein hiver, on ne lave pas la voiture.
Et Barbara,
l'écologiste patron que je suis, moi je roule avec une voiture électrique, tu vois.
Moi aussi. J'ai une voiture électrique, premier prix, voilà.
Il faut pas avoir voiture électrique, Bruno Poncet.
Non, mais quand j'entends ça, moi ça me fait rire. Les voitures électriques, c'est écologiste. Mais comme aujourd'hui, tu as plein de rapports qui t'expliquent que la voiture électrique, elle pollue autant.
Comme l'État français, sous la droite, a mis des primes.
Tu serais un vrai patron écologique, tu roules en vélo.
Mais
c'est
non,
ça, Stéphane, achète un vélo et pas un vélo électrique, un vélo normal.
Non, je peux pas, c'est bon.
Ah ouais, mais tu vois, ça serait bien.
Mais je transporte des choses.
Prends-toi un triporteur ou un vélo cargo. Là, tu serais vraiment écologiste. Là, pour l'instant, t'es sur le chemin.
Nathalie,
en tout cas, attendez les orages pour laver vos voitures.
Nathalie, quand même, prise de conscience, qui est allée voir le directeur de l'Intermarché, lui a dit, là, votre station de lavage. D'ailleurs, on enferme, les préfets enferment de plus en plus là, des stations de lavage en France. Ouais, mais la question est de savoir, au moment, tu vois, où les pluies vont revenir, où le mois de septembre va arriver, si finalement... On va se dire, bon, ben ça y est, là, c'est derrière nous, c'est fini, les nappes phréatiques vont se reconstituer. Et tu vas voir qu'on va passer à autre chose.
Hydrologues.
Je suis pas sûr qu'on prenne en compte de nouveau le message qu'on vient de donner.
J'entendais un hydrologue qui expliquait que si et seulement si, on avait des pluies régulières, on pourrait imaginer un début de retour à la normale, pas avant novembre. Et encore, si on a les pluies. Parce que si on a un mois de septembre et octobre sec, on va avoir un hiver problématique et donc l'année prochaine un grand problème parce que les végétaux et la terre et les nappes ne seront pas reconstituées, donc c'est pas du tout gagné.
Et il faudra qu'il neige cet hiver aussi, là où il doit neiger, si on veut refaire les nappes phréatiques.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Jouer au golf. Par contre, ça c'est bien, tu pourras jouer au golf, ça sera quand même pratique. Hein, Stéphane. Tu pourras aller dans ton jacuzzi.
J'ai des engagements citoyens écologiques modérés.
Stéphane,
je ne suis pas un ayatollah ou un extrémiste.
Stéphane prend sa voiture électrique, va faire son jacuzzi. Une fois qu'il a fait son jacuzzi,
il va faire un golf.
Il va faire un golf.
Et après, je me fais une bonne côte de bœuf.
Voilà.
C'est beau l'écologie.
Jacuzzi percé, golf saccagé. Est-ce qu'on a affaire à des emmerdeurs ou à des sauveurs? C'est la question qu'on a posée aussi sur les réseaux sociaux. On va voir quelle est votre réponse. Ce sont des des emmerdeurs à 80. Je pensais que ce serait plus partagé.
Ah, voilà, ils sont tous comme
emmerdeurs à plus de 83%.
Et ben moi, je suis très fier des auditeurs d'RMC parce qu'ils sont tous comme Nathalie. Ils sont dans le dialogue et pas dans l'extrême. Bravo, bravo les auditeurs.
Je suis pas sûr que ceux qui disent sont des emmerdeurs, ils soient forcément dans le dialogue avec les militants écologistes. Ah ouais. Dans un instant, le journal du off et le quiz des GG. Et dans le journal du off, on va évoquer cette tribune de François Rebsamen, le maire de Dijon, à propos, ça va être le grand débat de la rentrée, on va le tenir tout l'été, vous allez voir, le vote des étrangers, vous savez, la proposition de Sacha Houlier, et lui il estime, François Rebsamen, que le vote des étrangers c'est une mesure de justice sociale et que ça renforce la communauté municipale. On va regarder ses arguments et on va en parler dans les GG.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Vous avez raté les grandes gueules aujourd'hui, 15 août. Vous êtes pardonné.
Oh, tu fais bien.
En ce lundi de l'Assomption, on s'est
Bien amène à la
rigole pas trop avec ces sujets-là. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous arriver.
Mais c'est pas faux. On dit pas une fatwa, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là?
Oh, je sais pas.
Mais... Une bulle?
Une excommunication.
Une excommunication.
Surtout qu'on peut se mettre très pieux. Tu ne supporterais pas d'être excommunié.
Paul Lassen, notre coproducteur, est là. Ça va être le quiz des GG dans un instant. Avec Stéphane Manigol, avec Barbara Lefebvre, avec Bruno Poncé. Juste le temps de regarder un peu ce qui se passe en politique, là même au cœur de l'été. C'est le journal du off et... remarquez là au cœur de l'été, on en a parlé ici dans les GG, dans les grandes gueules, cette proposition de loi qui a été déposée par le député Sacha Houlier, qui est ni plus ni moins que le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, vous savez, pour le droit de vote des étrangers non européens. Et François Rebsamen, l'ancien ministre, le maire de Dijon, estime que accorder ces droits de vote aux étrangers extra-communautaires pour les élections municipales, c'est même une question de justice sociale. Il dit il y a une distorsion là entre deux étrangers entre guillemets et ce n'est pas normal, dit-il. Et il faut arrêter de se faire peur en disant qu'autoriser les étrangers à voter aux élections municipales, il y aura des listes communautaires. Bien au contraire, dit François Rebsamen, il faut inventer une nouvelle citoyenneté de résidence. Tu es d'accord avec ça ou pas, Bruno?
Oui, et puis en plus, moi je suis convaincu en plus que c'est le contraire, parce qu'à partir du moment que tu intègres les gens, tu évites le communautarisme. Et à partir du moment que tu fais voter les gens, et les municipales, c'est un point pour moi, réellement, toute personne qui réside en France doit voter à toutes les élections en France parce qu'elle est concernée par ce qui se passe dans le pays.
C'est pas la même sémantique.
Ouais, mais on est d'accord, mais après chacun son point de vue, ça c'est le mien, tu vois. Mm-hmm. Et le vrai sujet aussi, c'est qu'à un moment donné, moi je trouve que Rebsamen, pour une fois, bon, il mange un peu toutes les gamelles aussi, celui-là, mais moi je trouve que c'est un minimum. Il y a un vrai sujet là-dessus. Le communautarisme, tu ne le combats qu'à partir du moment que tu donnes les mêmes droits à tout le monde.
Non.
À partir du moment que tu donnes le même droit à tout le monde, je pense pas qu'on va faire du communautarisme. Et t'auras pas des listes communautaires, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein, parce que quand on parle de communautarisme en France, on parle toujours la même chose. Mais le communautarisme, il touche beaucoup d'autres communautés. Moi, je trouve réellement que c'est une bonne idée. Et puis, ça doit être appliqué depuis longtemps.
Donc, pour toi, ce n'est pas lié à la carte d'identité, quoi.
Ouais. Non, pas du tout.
D'accord. Barbara Lefebvre.
On rappellera quand même que depuis la loi Guigou de 92, de toute façon, En termes de droits, puisque tu évoques les droits, un étranger ou un français ont exactement les mêmes droits sociaux et les mêmes droits économiques. Donc, le dernier indice de différence entre un français et un étranger, c'est le droit de vote. Alors, si effectivement on veut abolir toute forme de frontière entre quelqu'un qui a la nationalité française, y compris un étranger qui fait la démarche de demander sa naturalisation, ou un enfant né en France de parents étrangers qui décide d'opter pour la nationalité française puisque ça lui est permis à partir de l'âge de 13 ans, eh bien si finalement cette dernière limite de différence qui permet effectivement d'être un Français complètement à part entière qui a le droit de vote, on veut l'effacer, eh bien on n'a qu'à écouter M. Rebsamen. Maintenant, moi, je ne pense pas du tout que ce soit un sujet très important aujourd'hui. Je pense qu'on a d'autres nécessités, et notamment l'intégration, effectivement, parce qu'excuse-moi...
Donc tu es contre.
Il y a des Français d'origine... Oui, parce qu'il y a des Français d'origine étrangère qui peuvent voter, qui ne votent pas, parce que justement, on a des problèmes d'intégration. Donc, je ne crois pas que faire voter des étrangers, qui d'ailleurs ne sont pas forcément demandeurs de cette question-là, ça sera un sujet. Mais à la limite, la Macronie de gauche, n'est-ce pas, Sacha Houlier, la Macronie de gauche, veut nous mettre ce sujet dans les pattes, très bien. Qu'il fasse donc un référendum. Un grand débat national avec un référendum. Moi, je suis pour les référendums. Donc, c'est un sujet, de toute façon, c'est un sujet qui relève d'une réforme constitutionnelle. Donc, c'est au peuple français plein et entier par un référendum de s'exprimer sur ce sujet et d'avoir ce débat. Et c'est pas une petite loi.
Ils ont voté les étrangers au référendum ou pas?
Non, c'est les Français. Et y compris d'ailleurs les Européens, les ressortissants européens n'ont pas à voter au référendum. Ils ne sont pas Français, je suis désolée, ils n'ont pas le droit de vote. Donc c'est le peuple français qui devra s'exprimer à travers un référendum.
Bruno.
Moi, déjà, je comprends pas le sens de dire que on est entre, enfin, c'était une barrière entre un Français, un mec qui est d'origine étrangère. Et puis, je pense pas réellement que c'est le communautarisme qui t'empêche de voter, parce que moi, personnellement, j'ai 50 ans, j'ai jamais voté de ma vie. C'est parce que moi, j'ai pas confiance en eux.
Juger, il est là.
Exactement. Et moi, j'ai pas confiance en eux. Et dans mes fonctions syndicales, et malheureusement, en tant que militant, j'en ai rencontré. Ça m'a conforté dans l'esprit que tant qu'on sera représenté par des gens comme ça, ça va pas encourager ceux qui vivent au jour le jour la misère et la galère pour aller voter pour qui que ce soit. Donc là, c'est pas le sujet. Et moi, je pense réellement, c'est pas parce que t'es d'origine étrangère que tu vas pas voter. C'est parce que t'as pas confiance en ceux qui te représentent. C'est surtout parce que des fois, ils te ressemblent pas.
Bruno, il a un côté canadien, puisque en réalité, au Canada, ils réfléchissent à supprimer le droit de vote des résidents canadiens vivant à l'étranger. En fait, c'est juste une question de sémantique. Eux, ils partent du principe que ils veulent favoriser le résident permanent plutôt que le résident qui vit ailleurs. Moi, je pense que c'est trop tôt. Le sujet, il est pas bon.
Ça fait 40 ans qu'il est posé.
Mais c'est trop tôt parce
c'était
que
même François Mitterrand qui l'avait promis. Ouais. Et à chaque fois, ça a été la France n'est pas prête.
Et je vais dire pourquoi. Parce que quand j'entends Bruno,
moins prête avec 89 ministres du Rassemblement National à l'Assemblée. D'ailleurs, ça passera
député,
pas.
Député.
Mais c'est trop tôt. Et je veux juste développer pourquoi c'est trop tôt. Quand j'entends Bruno qui est engagé syndicalement dire je ne vote pas, il est là le problème. Avant d'aller chercher des nouveaux votes, il faut peut-être, il y a un Français sur deux qui vote pas, il faudrait peut-être intéresser déjà ceux qui votent. Et ensuite, pourquoi pas faire comme en Belgique, rendre le vote obligatoire, tout simplement. À partir du moment où tu le rends... Enfin, je sais pas, moi, on s'est battu, il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse avoir ce droit de vote, et il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas voter. Parce que la liberté n'existe pas. Et nous, on se paye le luxe de dire, non, on va peut-être élargir, mais en fait, on va pas faire voter. Moi, petit 1, je suis favorable à ce que le vote soit obligatoire. Et je suis même favorable à ce que nos enfants, dès l'âge de 16 ans, puissent aller voter. Parce que c'est aussi...
Et tu mets les étrangers ou pas, alors?
Après. Une fois que tu as réglé le droit de vote obligatoire,
comme le disaient Bruno et Barbara, si tu es étranger,
le vote communautaire.
Mais que tu travailles et que tu payes aussi des impôts, etc. Donc pourquoi tu voterais pas?
Mais tu sécurises, en fait. Parce que
les Européens peuvent et le Malien peut pas.
Il
y a cette phobie de considérer qu'il peut y avoir un vote communautaire, ce qui n'est pas forcément faux. Et donc, à partir du moment où tu as ce risque réel, on le voit notamment au municipal, certains religieux appelant à voter pour telle ou telle personne parce qu'ils vont construire tel ou tel monument pour leur religion, ça non. Donc oui, pour lutter contre le vote communautaire, il faut petit 1, vote obligatoire pour tout le monde, petit 2, rabaisser à 16 ans, parce que quand t'as ton gamin qui vient de passer son brevet des collèges, qui est sa première étape dans la vie de la société, et qui derrière te dit papa, moi ou maman, je vais aller voter, j'ai 16 ans, j'ai le droit d'aller voter, tu te sens peut-être un peu con, tu vas aller voter avec ton môme. Donc moi, je suis pour. Et vous voyez, certains vont me dire ah, mais c'est une provision de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon il dit qu'il fait beau que je vais dire qu'il pleut.
Gérald Darmanin est contre ce droit de vote des étrangers. Et donc simplement pour
ça
te dire qu'on voit
bien
la
où
fracture,
en est la Macronie.
Voilà, la fracture qu'il va y avoir au sein de la majorité. Parce que ça va s'inscrire, tu sais, dans le cadre du grand débat sur l'immigration qui va arriver à la rentrée.
Tout le monde
ça n'a aucune chance de passer.
La démarche de Sacha Houlier, déjà, c'est pour faire parler de lui au milieu de l'été.
Oui, c'est bizarre. À titre personnel, c'est quand même
que Darmanin dit la même chose que toi. Pourquoi t'attaques Darmanin? Il dit la même chose que toi.
Il est contre comme toi, donc
non,
je comprends
question,
pas le
la question.
Que tu
c'est juste, non mais
c'est, il faut être objectif.
Quand
il est
vous élisez, quand vous élisez, c'est pas mon cas, un parti pour être au pouvoir. Vous attendez à ce qu'il y ait une certaine cohérence. Donc là, on voit bien ce qu'est la Macronie. La Macronie, c'est
il est contre,
un coup très à droite, un coup très à gauche, un coup c'est Darmanin, un coup c'est Sacha Houlier, un coup c'est au milieu, c'est Dupond-Moretti. Bref, plus personne ne sait où il habite. Non mais vous êtes gouverné par des gens.
La même chose que Barbara Lefebvre dit, ah bah non,
c'est pas ça le problème. Je te montre. Non, moi, ce qui me pose un problème, je sais pas si t'as remarqué, ce qui me pose un problème dans la vie, c'est la cohérence. C'est la cohérence. Oui. Et moi, justement, si je n'ai jamais adhéré au programme d'Emmanuel Macron, parce que c'est pour moi, c'est l'incarnation même de l'incohérence. Le et en même temps, c'est l'incohérence permanente. Je préfère des gens qui, comme chez les Insoumis ou comme au Rassemblement National, sont des gens cohérents. parce que même si je suis pas d'accord avec leurs idées, mais au moins il y a une ligne, ça veut dire quelque chose. Avec Macron, ça godille en permanence, on sait pas où on va et au résultat, il y a aucun problème qui est réglé. Pourquoi donc excuse-moi.
Mais parce que au sein même du parti, tu as Houllier et Darmanin, le président de la commission. Dire. C'est d'ailleurs même bizarre d'avoir un président de la commission des lois qui dit à titre personnel, je le dépose. Non, quand tu es président de la commission des lois, tu déposes pas une proposition de loi comme ça à titre personnel. Et moi je ne veux pas croire d'ailleurs et je ne peux pas croire qu'il l'ait fait à titre personnel.
Et ce débat peut être un débat important, mais le fait qu'il soit mis sur la table dans un parti qui à la fois a du Darmanin et du Sacha Houllier montre bien que on finira par quoi
c'est
par
des diversités,
match nul, il se passera rien.
Y compris chez Marine Le Pen.
On y va pour le
contraire.
On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Le quiz des GG, monsieur Paul, c'est à vous. Le quiz, les petites questions qui vont nous permettre de sourire et d'apprendre des choses. C'est parti.
Alors déjà, je suis content de voir que Barbara est revenue bien reposée de vacances. Elle est déjà très en forme.
Moi, il faut que j'y reparte après 2 heures avec Barbara.
C'est ça.
D'ailleurs, tu m'as dit parle un peu plus fort.
Moi, je pars. Hein, j'ai mon vol à 16h. Hein, je veux dire.
Je crois que j'ai une tablée qui aime les animaux. Stéphane, si je me trompe pas, tu as un hamster.
Et nous avons hérité. Alors c'est un héritage du Covid puisque mes enfants, comme beaucoup d'enfants à l'école, avait des animaux et pendant le Covid, les fermetures des classes, on a hérité du petit Cookie qui a 7 ans.
On salue Cookie qui nous regarde. Ouais. Alain, tu as un chien si je ne me trompe pas. Barbara, pareil.
Oui, et bientôt un chat.
Et Bruno ?
Moi, je voudrais bien, mais j'habite en appartement, j'ai pas envie de le rendre malheureux, mais je voudrais bien un chien.
D'accord. Du coup, je m'adresse à vous puisque nos amis du Figaro ont sorti un papier très intéressant la semaine dernière. 6 raisons étayées de détester votre chat ou de vous en méfier. Alors on va voir si vous êtes d'accord avec ces affirmations qui sont basées sur des études scientifiques très sérieuses.
Barbara, je suis contre tout.
Si vous l'aimez, votre chat, lui, ne vous aime pas. Il s'est rapproché de l'homme par intérêt, nous disent ces études. Un moyen pour lui de se procurer de la nourriture sans effort et s'il tolère votre présence, c'est bien parce qu'il y trouve un intérêt matériel.
Oui, c'est sûr. C'est bien sûr.
Bah, comme l'homme. Oui. Voilà. Avec un grand H, hein, c'est pareil. Hein.
Oui, d'accord.
La domestication du chien et du... On n'a jamais l'homme. Véritablement domestiqué le chat en réalité, mais la domestication du chien, il y a eu un intérêt réciproque.
Oui, évidemment.
Et le chat, il y a plus un intérêt pour le chat que pour l'homme.
Oui, du coup, est-ce que votre chat vous manipule près de 10 000 ans de cohabitation? Ils l'ont amené à développer des techniques de communication. Il faut savoir que les chats ne miaulent pas entre eux, mais ne miaulent qu'avec les humains. Est-ce que les chats sont manipulateurs?
C'est des pervers narcissiques.
Manipulateurs, je ne sais pas, mais ils jouent leur intérêt propre. Et c'est une façon, et peut-être de comprendre pour certains humains qui sont capables d'aller vers le chat, de comprendre que les animaux ont un intérêt propre et ont leur propre système de communication.
Ça me fait penser quand même au sketch des nuls où les chats fumaient des joints et puis jouaient au baby-foot.
C'est pas mal, ouais. Ah, c'est bon, ça.
De toute façon, le chat, tu es chez lui, hein. c'est pas comme le chien.
Il y avait un chat, il nous fonçait dessus de temps en temps.
Justement,
quand le chat remue la queue, ça veut dire qu'il est agressif. À la différence du chien, quand le chien remue la queue, c'est
qu'il est tout félin d'ailleurs.
Et de l'homme.
Oui, bon, ça va.
C'est Paul qui l'attend.
J'ai vu tes yeux.
Ah,
du coup, j'enchaîne sur votre chat est un authentique.
Mais comme Barbara dirait, l'homme est un animal.
Ouais. Vas-y.
Le chat est un psychopathe.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Une grande partie des traits du caractère du chat s'inspire de ceux des lions en captivité. Du coup, quand tu te faisais attaquer, c'est parce que ton chat se prenait pour un lion, visiblement.
Mais il était au bout du couloir. Aussi, hein. Tu sais, il était sur le dos, il ronronnait, puis d'un coup, il se mettait sur ses 4 pattes. Et tu sais, il nous regardait. Et il se mettait sur ses pattes arrière, il reculait. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Et il nous fonçait dessus, mais toute griffe dehors. Et puis il était content, il avait fait sa crise, et puis après il repartait.
Mais il y a certains chats, notamment les persans, etc., ce qu'on appelle, ils peuvent développer un espèce de syndrome, c'est le chat-tigre. S'ils ont été laissés trop longtemps seuls, ils peuvent être complètement déchaînés et là ils vous attaquent, etc. Donc oui, c'est pour ça que je dis, c'est un animal qu'on a domestiqué, mais qui reste. Il a quelque chose de sauvage qui est fascinant.
Justement, ce côté sauvage, le chat est un danger pour la biodiversité. Chaque année, ils sont responsables de la mort de 75 millions d'oiseaux et probablement de millions de chauves-souris. Ça représente plus de 200 000 volatiles par jour.
Et les souris, les rats.
L'animal humain tue plus que les chats. Donc,
dire que Willy Schran tue plus que les chats, par
combien
exemple.
Combien de chiffres?
Oui, à sa façon. Oui.
C'était combien?
75 millions d'oiseaux.
On n'abat pas 75 000 bêtes.
Ils chassent
75 millions de bêtes.
Ils chassent pour même se ramener, uniquement pour ramener les proies.
C'est le cycle de la nature, ça, de façon.
Mais oui, c'est le cycle naturel. Si on laissait les oiseaux tranquilles et qu'on ne faisait pas disparaître autant d'espèces d'oiseaux.
Qui tue les rats.
Néanmoins, il y a une nécessité. On en parlera sans doute tout à l'heure avec le président de la SPA. européen, il y a une nécessité absolument dans les villes et dans les campagnes de stériliser les campagnes de stérilisation de chats. C'est très nécessaire. Un couple de chats.
Petite dernière, vite fait, une petite question juste pour la route.
En fait, votre chat s'en fout complètement de vous, puisque d'après une étude, il reconnaît quand on l'appelle par son nom. Et quand son maître l'appelle, il reconnaît la voix, juste, visiblement, il n'en a rien à faire.
Il a
plus de 16
pour nous le dire, ça?
Non, mais si, c'est
alors
vrai.
Oui, figure-toi.
Quoi?
Merci de cette étude sur les chats qui nous a rendu un peu moins bêtes, c'est le cas de le dire. Le patron de la SPA tout à l'heure à 12h20, Jacques-Charles Fonbonne, avec nous ce week-end qui malheureusement est en général le week-end du 15 août, un week-end d'abandon. Dans un instant, 11h, on a encore entendu ce week-end des gérants de commerce, d'hôtels, de restaurants, des artisans dire qu'ils vont passer l'été toujours sans main d'œuvre. Les alertes dataient déjà d'avant le printemps. Que se passe-t-il? Et quand tu poses la question, dis que c'est la faute aux salaires qui sont trop bas, la faute des patrons s'il n'y a pas de main-d'œuvre. 32-16 pour venir en parler dans les GG. Ce sera les GG 7 et match.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.